Bonjour, aujourd'hui on plonge dans le monde bouillonnant de l'intelligence artificielle. On s'appuie sur une revue de presse du 9 juillet 2025. Notre but, décrypter un peu les dernières avancées, les défis actuels. Et on commence fort avec une mise en garde qui vient du sommet mondial IA au service du bien, à Genève. L'alerte, c'est pas tant l'IA elle-même, mais le risque d'aller trop vite. De généraliser sans vraiment mesurer l'impact pour tout le monde.
Oui, tout à fait. Et ça renvoie directement à un problème bien réel, la fracture numérique. On a encore 2,6 milliards de personnes sans accès à Internet.
Ah oui, quand même.
Donc l'IA, elle risque de creuser encore ce fossé. D'autant plus que, et ça a été souligné à Genève, 85% des pays membres de l'UIT,
l'agence de l'ONU pour les techs, c'est ça?
Exactement. Eh bien, 85% n'ont toujours pas de stratégie IA définie. Donc, pour une gouvernance mondiale, c'est compliqué.
D'accord. Donc, d'un côté, cette inquiétude sur l'accès, la stratégie. Mais de l'autre, la technologie, elle avance à une vitesse folle.
Mmh.
Infropic, par exemple, vient d'annoncer Claude Opus 4.
Mmh.
Ils disent que c'est le meilleur pour le codage, capable de gérer des tâches vraiment complexes sur de longues durées.
Et évidemment, OpenAI n'a pas tardé à répliquer avec GPT-4.5. Eux, ils mettent l'accent sur ce qu'ils appellent la compréhension intuitive.
C'est-à-dire?
Une meilleure capacité à saisir les non-dits, les nuances du langage, un peu comme une forme d'intelligence émotionnelle, si on veut. Ils promettent aussi moins d'hallucinations.
Ah, les fameuses réponses fausses ou un peu délirantes.
C'est ça. Donc, on voit bien que la course, c'est plus seulement la puissance brute. C'est aussi la fiabilité, l'interaction plus naturelle.
Et cette course technologique, elle s'accompagne bien sûr d'une énorme compétition géopolitique, économique. Les États-Unis mènent la danse. Hein. On parle de presque 700 milliards de dollars par an.
Oui, c'est colossal.
Tiré par des entreprises comme Nvidia, dont la valorisation, ça donne le vertige.
Carrément. Et la Chine n'est pas loin derrière, autour de 500 milliards annuels. Mais attention, le paysage est plus complexe que ça.
C'est-à-dire ?
D'autres acteurs émergent. Prenez les Émirats Arabes Unis. Ils ont une ambition très claire, que l'IA représente 14% de leur PIB d'ici 2030.
Ah oui, c'est précis.
Et l'Europe aussi, elle cherche sa place. On vient d'inaugurer un grand campus IA à Paris, qui réunit des acteurs comme Mistral AI, mais aussi des géants comme Nvidia, justement. C'est moins une course à deux qu'une vraie redistribution des cartes, en fait.
D'accord. Alors, parlons d'un sujet qui préoccupe beaucoup. L'impact sur l'emploi. Là, les infos sont tumultueuses, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
D'un côté, on voit des licenciements massifs dans la tech américaine. Presque 100 000 postes en 2025. Et des études qui suggèrent que beaucoup d'emplois de bureaux pourraient être automatisés.
C'est vrai.
Mais d'un autre côté, on entend parler de création de nouveaux métiers. La revue de presse cite Scale AI, par exemple, qui recrute pour le fameux RLHF, l'apprentissage par renforcement avec feedback humain.
D'accord.
Mais, et c'est une correction importante qui a été faite, il faut vraiment regarder de près de quels emplois on parle.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Souvent, derrière ces annonces, on trouve ce qu'on appelle un peu crûment les soutiers du clic. C'est ce travail humain essentiel pour entraîner les IA, comme l'étiquetage d'images, évaluer des réponses, ce genre de choses.
Exactement. Étiquetage, évaluation, modération de contenu. C'est un travail souvent répétitif, très précaire, mal payé et très souvent délocalisé.
L'intelligence artificielle fantôme, on dit parfois?
C'est un peu ça. C'est le travail invisible qui fait tourner la machine. Donc, attention à ne pas le présenter comme une compensation miracle face à la perte possible d'emplois qualifiés. Ce n'est pas vraiment une promotion, quoi.
C'est clair. Mais au-delà de ces questions cruciales sur le travail, l'IA montre aussi des visages plus encourageants, non?
Des applications potentiellement incroyables.
Ah oui, heureusement. Dans le domaine médical, par exemple, on a des résultats assez spectaculaires. Aider des couples infertiles depuis des années à avoir un enfant.
Incroyable. Ou même des recherches pour essayer de déchiffrer la communication animale. Le potentiel est là, c'est indéniable.
Mais les défis aussi sont immenses.
Absolument. Prenez l'impact environnemental, la consommation d'énergie des data centers pour l'IA. Ça pourrait exploser. Certaines estimations parlent de 25% de l'électricité américaine d'ici 2030.
Un quart de la consommation électrique?
C'est énorme.
C'est énorme.
Et à ça, il faut ajouter les questions de sécurité. On a des rapports sur l'utilisation d'IA pour la désinformation, la propagande, ou même pour piloter des avions de chasse de manière autonome.
Face à tout ça, l'Europe essaie de réguler avec son accès sur l'IA. Une approche basée sur les risques.
Oui, c'est une tentative pionnière. Pendant ce temps, les États-Unis, eux, semblent encore chercher l'équilibre entre d'un côté la volonté de stimuler l'innovation à fond et de l'autre la nécessité de mettre des garde-fous. Un débat qui reflète bien les tensions là-bas.
Bon, si on essaie de résumer un peu cette exploration rapide, 2025, ça ressemble vraiment à une année charnière, non ?
Oui, je crois.
L'IA sort massivement des labos. On a des outils comme Claude 4, GPT 4.5, qui sont techniquement impressionnants. Mais en même temps, ce déploiement rapide soulève des questions de société gigantesques.
C'est ça. La fracture numérique qui pourrait s'aggraver, l'avenir du travail qui est complètement redéfini, l'empreinte écologique et bien sûr les usages géopolitiques.
Beaucoup de choses à surveiller.
Énormément. Et peut-être une dernière réflexion pour conclure. Si une bonne partie de cette IA qu'on dit autonome repose en fait sur ce travail humain, invisible, souvent précaire, des soutiens du clic, qu'est-ce que ça signifie vraiment l'autonomie de ces systèmes ? Et surtout, quelle responsabilité éthique ça implique pour ceux qui les développent et les déploient massivement ?